RMC Running, le cabinet de Maître Yodu.
Salut à tous, bienvenue dans le cabinet du Maître Yodu, le meilleur coach de France qui est à votre service. 40 minutes d'échange avec Johan Durand pour parler de vos problématiques personnelles et pouvoir comme ça les mettre en lumière parce que ça concerne forcément des membres de la communauté RMC Running. Le docteur est là, il a retrouvé son cabinet, les clés, la blouse blanche, tout ce qu'il faut. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît.
Ravi de te retrouver, on a hâte de découvrir la problématique de Grégoire. Aujourd'hui, vous allez voir un profil atypique. Si vous voulez faire part de vos problématiques comme ça dans RMC Running, dans le cabinet du Maître Yodu, c'est très simple, vous adressez votre candidature à l'adresse mail suivante, podcast@rmcrunning.com. Vous nous racontez votre histoire, les questions que vous vous posez, et comme ça vous serez sélectionné par notre excellent producteur Maxime Abolin. J'en profite également pour vous remercier. On a passé la barre des 50 000 abonnés sur Instagram, donc merci à tous, continuez de nous suivre parce qu'il y a plein de belles opérations qui vont arriver. Et n'hésitez pas à laisser des notes et des commentaires sur les plateformes de téléchargement, notamment Apple, Spotify et Deezer. Comme ça, ça nous permet d'être mieux référencés et d'aller sur YouTube aussi également. Comme ça, vous avez Yohan en image. Il y a plein de choses quand même, on se développe, c'est 360
c'est
là. Et on est là, hein, Yodu. Hein.
On est partout.
Exactement.
Partout.
On est partout. Et tout de suite, on accueille Grégoire qui patiente en salle d'attente. Salut Grégoire.
Salut. Salut Benoît, salut Johan.
Grégoire, sois le bienvenu, c'est une téléconsultation parce que tu es en direct du Vietnam. Hein.
Exactement. Téléconsultation à distance cette semaine.
Voilà, ouais. Bon. On fait payer deux fois plus cher ou pas ça?
Non, je suis prêt à payer.
Non, t'inquiète pas. C'est le même tarif pour tout le monde, Grégoire, c'est-à-dire zéro.
Bon, c'est parfait.
Pourquoi tu cours, Grégoire, tout simplement?
Alors, je cours pour le plaisir, je crois, parce que j'en ai besoin. Et puis, je pense que ce qui me drive aussi, c'est quand même la performance. Donc, c'est un peu des deux, quoi. Je crois que j'en ai besoin. Je pense que je suis un peu accro aussi à la sensation qu'on a une fois qu'une séance est passée, même si on n'avait pas envie de la faire. Enfin, c'est quelque chose qui est toujours agréable.
Qu'est-ce que tu fais au Vietnam, Grégoire ?
Alors, je vis à Ho Chi Minh Ville, dans le sud du Vietnam, depuis 10 ans. Donc, on a quitté Paris en janvier 2016 avec ma femme. Donc, j'habite ici. Je suis préparateur physique de profession. Donc je m'occupe depuis que je suis au Vietnam, je dirais 50% de clients, entre guillemets, normaux, c'est-à-dire du maintien de forme et de la RIA, par exemple, et 50% d'athlètes, donc des footeux, des joueurs de tennis, des joueurs de golf, ouais. Des coureurs. Et j'interviens également dans une académie de foot avec des jeunes U15, U17 en prépa physique.
Ah ben c'est super, bon profil là, Yodu. Même Grégoire a besoin de tes conseils, ça c'est beau quand même.
Exactement.
Ah ouais, ouais, ben merci.
On va parler des caractéristiques du Vietnam, la chaleur, l'humidité dans un instant. Mais tout d'abord, pour mieux te connaître, Grégoire, on va dresser ton CV de coureur.
RMC,
le CV de coureur.
T'as quel âge, Grégoire?
J'ai 37 ans.
Ok, et tu cours depuis quand?
Alors, je cours, on va dire sérieux. On va dire, allez, j'ai commencé à courir à la fermeture des salles de sport en 2020 pendant le Covid.
Ok.
Et c'était très récréatif au début, entre 0 et 2-3 fois par semaine, pendant jusqu'à je dirais, l'année dernière où j'ai commencé à m'entraîner pour de vrai, finalement. Je dirais en mars l'année dernière, ça fait à peu près un an, où j'ai commencé vraiment à courir, donc 5 fois par semaine d'abord et plus récemment 6 fois.
Ok, ah oui. Ah oui. Ça représente quel volume aujourd'hui alors par semaine?
Alors, je dirais, sur les 5-6 derniers mois où je m'entraîne 6 fois par semaine, ça représente entre 65 et 90 km par semaine.
Ah oui, on est sur des gros volumes. Préparateur physique, le sport, c'est donc ta passion et ton métier. Est-ce que tu as un gros passé de sportif?
Alors, j'ai un bon passé de sportif. J'ai joué beaucoup au foot. Je suis avant d'être un coureur, j'ai joué au foot toute ma jeunesse jusqu'à 18-19 ans.
Ok.
J'ai aussi fait de l'athlé en club quand j'étais gamin jusqu'à 13-14 ans sérieusement.
Ok.
J'ai eu une famille de coureurs, mon père a beaucoup couru avec mes frangins on courait, j'ai mes potes qui couraient, etc. Voilà, j'ai fait des crosses du collège, de l'école, etc. Et pour le truc, j'ai été champion je crois que c'était en poussant en Benjamin, j'étais champion départemental de cross.
Ah oui, bah on a une caisse naturelle qui est à exploiter, voilà. Alors, ok.
C'est ça. Donc j'ai toujours un peu couru, et puis bon, je joue à un bon niveau de foot, Et je pense que mon avantage principal sur un terrain de foot, ça a toujours été quand même ma caisse et ma capacité à courir.
Ok, bah écoute, on va écouter toutes tes problématiques. Je finis juste le CV. Quelle est la dernière course que tu as disputée?
C'était un 10 km à Kyoto au Japon,
ah ouais,
en février okay. dernier.
Ok, et la prochaine c'est quoi?
Le marathon de Caen, le 7 juin.
Ah ok, Caen, pas Caen au Vietnam, ah oui. hein, on est Caen dans le Calvados.
Caen dans le
Calvados,
ah ouais.
Le marathon de la liberté en France, ouais.
ouais ça et c'est quand ça?
Ah, ça vient vite.
C'est le 7 juin.
Eh ouais, 7 juin. Marathon ouais. de Caen, ok. Est-ce que tu as des RP dont tu es fier du coup, Grégoire?
J'ai pas pris beaucoup de dossards depuis que je cours sérieusement, mais je dirais la dernière course, le 10 km que j'ai fait en 37,08.
Ok.
En plus, je gagne la course, donc.
À Kyoto
si c'était une petite course, c'est toujours cool. Ouais.
C'est incroyable.
Course, mais je gagne la course, donc c'est sympa.
Ah, super. Et tu savais que tu pouvais gagner? T'avais regardé la start list ou c'est une.
Ouais, j'avais regardé un peu les années précédentes. Ça se gagne en 38 l'année d'avant, okay. En 35, ou en 36,30 l'année d'après. Donc je me dis, bon, il y a peut-être moyen si je cours bien de gagner. Donc c'est pas mal de gagner devant les Japonais, c'est sympa.
Okay.
Monter sur la première marche du podium.
Ouais, c'est bon ça. Grégoire, quand on est préparateur physique, quelle est sa séance préférée alors?
Je dirais, faudra sans aucun doute la sortie longue du dimanche matin très tôt.
Ok.
Ok, ma séance préférée, sans doute, ouais.
Est-ce que si on ferme les yeux, tu peux nous raconter le décor que tu as quand tu fais une sortie longue? Ça ressemble à quoi?
Oh là, les gars, j'habite dans une grande ville, une grande capitale.
Ah d'accord, donc il y a des klaxons partout, il y a tout
des
ça.
Des bords de route, okay. des klaxons, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas
ah,
de,
c'est pas
j'ai
paradisiaque
pas, ou quoi. Non, c'est d'accord. Pas paradisiaque du tout,
okay.
du tout. C'est des conditions plutôt dantesques.
Plutôt difficiles. Tu as accès à des pistes d'athlée ou pas d'ailleurs?
J'ai accès à une piste d'athlée auquel je vais assez fréquemment. Mais bon, je cours la plupart du temps sur route, quoi.
D'accord. Et la séance que tu détestes, est-ce qu'il y en a une?
Je dirais les endurances fondamentales à répétition, quoi. Il y en a 3 ou 4 par semaine, donc qui sont obligatoires, mais qui sont chiantes, quoi. Ouais, qui sont ennuyeuses, quoi.
C'est là où tu mets le podcast RMC Running.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Ah, c'est exactement.
C'est top. C'est marrant. C'est rigolo de savoir qu'on est écouté en direct du Vietnam, il y a du.
Oui.
Ça,
c'est ouais.
On est écouté dans le monde entier.
Ouais, ça oui.
Ça m'étonne, mais faut ça, c'est sûr.
Ah, bien sûr. Ok, donc et la séance que tu détestes, c'est l'endurance fondamentale. Comment tu es coaché? Est-ce que tu t'auto-coaches pour l'instant?
Eh bah oui, alors je m'auto-coach, à savoir que quand je me suis mis un peu à courir pendant le Covid là, et après le Covid, je préparais aussi un athlète qui courait sérieusement, et puis pour pouvoir savoir un peu de quoi je parlais, j'ai passé aussi des certifications d'entraîneur de sport d'endurance et de d'athlétisme.
Okay.
Donc bon, c'est des petites certifs, mais bon, je sais quand même un peu de quoi je parle. Entre guillemets, même si le cœur de mon métier, c'est quand même la prépa physique. Donc, je me coach tout seul. Je pense qu'on y reviendra après parce que ça fait aussi partie de,
oui, bien sûr.
De la problématique du jour.
Et quel est l'objectif pour le marathon de Caen?
J'aimerais bien faire moins de 3 heures.
Moins de 3 heures, ok.
Ouais.
Eh bien, écoute, Grégoire, on est ravis de te recevoir. Et le maître Yodieu est à toi. Quelles sont les premières questions que tu veux lui poser?
Alors, la première question, c'est simple. C'est au sujet de l'entraînement en chaleur, à l'année, tout le temps. C'est-à-dire que quand on parle de chaleur ici, je ne sais pas si vous êtes déjà venu dans cette région du monde,
mais c'est l'une des plus dures au
monde. Très chaud,
ah ouais. Ouais,
chaleur humide. C'est-à-dire que quand j'ai des potes qui viennent ici, ou mon père par exemple, ils assimilent ça un peu à la pire journée, la plus chaude et la plus humide qu'il peut y avoir un été en France, quoi.
Ouais.
Donc il faut imaginer un climat extrêmement orageux avec 30 degrés toute l'année. Donc forcément, ça complique un petit peu l'entraînement. De manière générale, c'est savoir un petit peu comment adapter ça, comment adapter les allures. Moi, je suis super intéressé par le fait de savoir comment Johan, lui, adapterait ça à ses athlètes et comment lui, il adapte, par exemple, les périodes très chaudes en France ou alors les compètes qu'il faut aller faire, là où il fait très chaud. Voilà, c'est tout ce genre de petits détails qui peuvent m'intéresser pour adapter ma prépa, tout simplement.
Mais même une sortie d'EF est difficile, du coup. Avec l'humidité et la chaleur, tu souffres
même toujours. Même une sortie d'EF est difficile. C'était un des points aussi que je voulais aborder et que j'avais noté. C'est que vraiment, même une EF est difficile. Moi, j'ai tendance, c'est ce que je faisais pour les athlètes que je prépare ici, je le fais un peu plus récemment avec moi. pour éviter la dérive cardiaque en fin de F, j'ai tendance à splitter en 2 fois 5 km par exemple. Je fais 5 km le matin, 5 km le soir, ou 6 km le matin, 6 le soir. Pour éviter de faire 10, 11, 12 d'un coup, parce que quoi qu'il arrive, moi, en tout cas pour les athlètes vietnamiens, c'est un peu différent. Pour moi, quoi qu'il arrive, au bout de 6, 7, 8 km, vu la chaleur qu'il fait,
le cardio s'envole.
Je vais avoir une petite dérive cardiaque. Pas, ça s'envole pas, mais j'ai une petite dérive cardiaque qui fait que je. Comparé à quand je vais courir à l'étranger où il fait frais, je sens une énorme différence à la fin de mes EF en termes de, voilà, d'énergie dépensée après 55, 60 minutes de danger fondamental.
Yodu, vas-y, quels sont les principaux conseils que tu peux lui donner déjà ?
Bah, ce qu'il faut savoir, la vraie problématique dans son cas, le vrai défi, c'est l'alliance entre la chaleur et l'humidité. Tu vois, il y avait eu les championnats du monde à Tokyo l'été dernier où Jimmy Gracie est champion du monde. La vraie difficulté, c'est ça, parce que tu peux t'acclimater à un environnement chaud comme nous, on peut avoir en France, mais il n'y a pas cette humidité ambiante. À 80% d'humidité, le problème, c'est que ta sueur, ta transpiration, elle s'évapore mal. Et du coup, bah, grosso modo, le corps, il surchauffe beaucoup plus vite. Et du coup, en surchauffant beaucoup plus vite, la performance, elle en pâtit forcément derrière. Donc ça, c'est très difficile. Et en plus, c'est quand même une des régions les plus, par rapport à ce combo chaleur-humidité, c'est celle qui est le plus délicate. Enfin, le Ho Chi Minh Ville et tout, j'ai l'impression que c'est l'endroit où c'est le plus compliqué. Donc, quand tu y vis, toi, ça fait 10 ans que tu es là-bas.
10 ans que je suis là-bas, ouais, c'est ça.
Alors, voilà, l'avantage que tu as, c'est que tu n'es pas un mec qui vient en tourisme ou qui est là depuis 15 jours. T'es plus ou moins acclimaté, je dirais, que là-dessus, il n'y a pas de souci, tu es acclimaté. Mais comme tu n'es pas né là-bas, tu n'es pas non plus... t'es quand même un étranger, tu vois, ça fait pas dégénération.
Je le sens dans mes gènes, génétiquement par rapport à un local.
Exactement.
C'est sûr qu'il y a une différence. C'est un peu, je pense, la même problématique avec les Kenyans qui sont nés à Eldoret et qui...
Exactement.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est le cas, bah, par exemple, Julien Wanders, effectivement, ça fait 5 ans qu'il vit au Kenya, qu'il vit à Iten et qu'il vit en altitude. Mais je pense que physiologiquement, il est quand même moins adapté qu'un Kenyan qui est né là-bas. Lui, il est né au bord du lac Léman en Suisse. Il y a une vraie différence par rapport à ça, parce que tu es acclimaté, grosso modo, mais tu n'es pas non plus... ton corps, il est capable de récupérer les mécanismes un petit peu utiles du truc, donc à savoir mieux transpirer, mieux gérer justement ces trucs thermiques. Donc tu pars pas de zéro, mais malgré tout, tu es impacté par la chaleur et tes performances seront quand même un petit peu impactées, quoi. Et ouais, c'est là où dans l'entraînement, effectivement, bah là c'est là où tu dois te connaître. Et c'est là où il faut vraiment adapter les allures. Et je pense que là, tu parlais de fréquence cardiaque, mais c'est là où, à mon avis, soit il faut travailler aux sensations, ce qu'on appelle le RPE, là, les notes sur 10, et de dire, voilà, il ne faut pas qu'en EF, je dépasse 3 à 4 sur 10. Soit tu travailles à la FC, et dans ce cas-là, bah, tu connais ta FC max et tes zones de FC. Et il faut vraiment bosser par rapport à ça, ouais.
Là, pour vous donner un ordre d'idée, vous tous qui nous écoutez, là je suis en train de regarder la météo actuelle, Grégoire, à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Donc là, à l'heure où on enregistre, il est 16h, il fait 33 degrés. Mais je regardais surtout cette nuit, à minuit il fera 26 degrés,
ouais, ça
à 4h du mat il fera 25 degrés, et au lever du soleil il fera 26 degrés.
Et voilà. du coup tu t'entraînes à quelle heure?
Alors c'était un peu là où je voulais en venir aussi. Bon, alors je m'entraîne, et la plupart des gens s'entraînent avant le lever du soleil, donc il faut avoir bouclé à 7h30.
Ouais.
Et à partir des 18h30-19h, après, bon, ça dépend des périodes de l'année. En ce moment, ça descend peu. Là, ce que tu vois sur la météo, ça descend limite presque moins encore. Avec l'humidité, on ressent vraiment le ressenti.
Ressenti
en ce moment, il est en fin de saison sèche, il est rarement en dessous de 30, 29-30. Ça descend peu, même la nuit. Par exemple, là, j'avais noté un peu, mais sur ma sortie longue d'hier, où je dois partir, je cours 2 heures, je pars à 5h05, je rentre à 7h10. Et il fait, je commence à 29, je finis à 31 degrés, 88% d'humidité sur toute la séance.
Bon.
Donc c'est des conditions très compliquées.
Mais là, l'hydratation, c'est primordial.
Là, c'est
primordial, c'est une évidence. C'est une évidence, je m'hydrate beaucoup, je bois deux gourdes par jour avec du sel, comment on appelle ça,
des électrolytes,
des Pocari, là, etc.
Quand tu cours aussi,
En courant, j'ai toujours j'ai toujours deux flasques avec moi, une que je remplis et une qui est avec toujours des électrolytes et.
Tu peux pas t'arrêter à remplir dans une fontaine publique, si.
Alors là où je cours, c'est la zone des coureurs un peu, c'est à ça là, c'est une boucle de. Une boucle de 12 km, ouais. C'est un peu notre bois de Boulogne ici, mais qui est une zone. Et du coup, en fait, il y a plein de stands d'eau où on peut remplir tout le temps.
Ah, bah ça va, au
moins. Tout le temps. Ouais. Donc je peux remplir tout le temps.
Mais là, là-dessus, t'es vigilant en tant que coach.
Ah, ultra
sportif.
Vigilant depuis toujours. Ouais. Depuis ça, il n'y a pas de choix. Ouais. C'est pas cool. Sinon, t'es exposé complet, si tu bois pas. Ouais.
Et t'as pas d'accès à une salle de sport, toi qui es préparateur physique.
Si, j'ai accès à une salle de sport. Ouais.
Bah, est-ce que c'est pas judicieux, Johan, de faire quelques séances sur tapis dans une salle climatisée?
Je fais du tapis. Ouais, je fais du tapis. J'essaie, par exemple, quand je split mes endurances fondamentales, c'est ce que je file aussi à mes athlètes, c'est que je fais le matin sur tapis, le soir dehors ou inversement. Mais bon, le tapis, je pense que vous avez aussi couru sur tapis. Ici, il fait chaud, quoi qu'il arrive, même les salles climatisées, etc. Il y a toujours cette humidité, cette chaleur ambiante. Donc, tu te retrouves vite aussi à manquer un peu d'air. Mais bon, c'est toujours là, par exemple, aujourd'hui, en ce moment, c'est la fin de saison sèche. C'est la période la plus chaude de l'année. En ce moment, je fais plus de tapis que le reste de l'année parce que la température descend vraiment pas jamais. Donc, il fait très, très chaud.
Et c'est dur mentalement, mais Johan, est-ce que Grégoire n'aurait pas intérêt à faire quelques séances de qualité au-delà des EF sur tapis?
Après, ça dépend ce qu'il prépare. Effectivement, s'il préparait une course à Ho Chi Minh, bah, dans ce cas-là, il faut quand même s'acclimater à courir dans les conditions dans lesquelles tu vas avoir ta compétition. Tu vois, parce que faire toutes les séances sur tapis, c'est très bien, mais le jour où arrive la compète et qu'il fait 30 degrés et 90% d'humidité, c'est compliqué.
Bon, mais, à quand le 7 juin, il ne fera pas 36 degrés,
voilà,
a priori.
C'est ça.
Mais toi, ton avantage, c'est que si ton gros objectif, effectivement, c'est le marathon de Caen, pour le coup, toi, il y a de grandes chances que tu fasses une performance auquel tu t'attends pas, puisque tu vas te retrouver dans des conditions beaucoup plus faciles.
Ça, c'est intéressant, Johan, excuse-moi de te couper, mais parce que c'est la question que Max me posait, il a raison, elle est judicieuse. Est-ce que s'entraîner dans ces conditions, quand tu vas aller courir en Europe ou dans un climat plus tempéré, c'est forcément un avantage? Parce que tu vas
c'était
moins
une transpirer. De mes questions.
Ah bah vas-y, Yodu.
Vas-y, pas de problème.
Là, c'est les dernières études. Je ne sais pas si vous avez vu, tous les athlètes aujourd'hui s'entraînent en thermo room, c'est-à-dire dans des chambres, dans des caissons où on met la chaleur, parce qu'ils se sont rendus compte, et ça, j'en avais discuté avec Greg Doucen du CNEA de Font-Romeu, notre professeur Folding de là-haut qui nous met dans
l'homme
des caissons
de la chambre hypoxique, vous emmener en haut du Mont Blanc
à 5000 mètres d'altitude.
Ouais,
et effectivement, il ressort dans les dernières études que s'entraîner dans des conditions extrême de chaleur et tout, crée un stress au niveau de l'organisme qui fait que ça correspond presque à s'entraîner grosso modo en altitude d'un point de vue physio.
Okay.
Et effectivement, c'est très bien de le faire, mais la difficulté, c'est que là, il le fait tout le temps et qu'il faut du coup adapter les séances, adapter la récupération, parce que quand il fait ces chaleurs-là, je pense que voilà, dans ton sommeil aussi, c'est peut-être toujours plus, même si ça, c'est climatisé certainement chez toi, mais t'es dans un environnement quand même extrême où t'es tout le temps un peu en difficulté dès que tu vas dehors, quoi. Donc en termes de récupération, il faut le prendre en compte, mais s'entraîner dans la chaleur peut être un atout pour quelqu'un qui après va venir en Europe faire les compétitions. Donc c'est pour ça que tout faire sur tapis, tu perds peut-être un peu l'avantage.
Je comprends.
Par contre, il faut adapter les allures, adapter les récupérations, faut tout adapter. Hein.
Et Greg, est-ce que c'est une frustration personnelle de devoir constamment adapter l'allure? Parce que tu as l'impression peut-être de ne pas exprimer ton plein potentiel à chaque fois, de te dire, là je fais gaffe parce que la fréquence cardiaque est déjà élevée, mais je sens que je pourrais aller plus vite.
Là, on parle de 10 à 15 secondes, je pense.
Ah bah oui,
d'adaptation.
Bien sûr.
Je ne sais pas si tu as remarqué l'écart, mais...
C'était un peu l'objet un peu du cœur un peu de la demande, c'était à quel degré adapter les allures, parce qu'en fait, honnêtement, je ne les adapte pas tant que ça.
Ah, parce que tu sais pas ce que tu vaux.
Parce que je sais pas vraiment ce que je vaux, c'est ça en fait.
Le repère que j'ai eu,
il est pas compliqué. C'est ouais. sur les 10 km que j'ai fait au Japon au mois de février, que j'ai couru en 37.0, je le préparais en 37.30. Donc ça veut dire que les allures ici, je courais à 3.45 sur mes blocs d'allure 10. Mmh. Je l'ai passé, pas trop mal. Je l'ai passé. Bon, le jour J, j'ai couru tout seul du début à la fin, 37.05, 37.06, c'est passé vraiment. Bien, bien, bien. Donc, c'était plus rapide que 3,45. Par contre, à l'inverse, j'ai couru un 10 km 6 semaines avant, cette fois-ci à Ho Chi Minh Ville. Et les trois dernières semaines de la prépa, j'étais en Chine. Et donc, j'étais en Chine et j'ai fait trois grosses semaines de prépa à 10-12 degrés. Et cette fois-ci, par contre, je passais des blocs d'allure. Je crois qu'à J-10 avant le D-Born, j'ai passé 4 fois 2000 en 3,38, 3,39.
Quel
donc,
kiff.
Je me suis dit, j'ai du jus pour le... J'ai du jus pour le D-Born et au final j'ai fait le D-Born en revenant à Ho Chi Minh Ville ensuite, ouais. Chaleur extrême, départ en plus, le problème ici c'est que les départs ils sont à 3h, 4h du matin pour éviter la chaleur, donc c'est compliqué pour le sommeil, ouais, ouais. etc. Donc chaleur extrême, pic de pollution, j'ai explosé, je pars à 3,43, 3,44, j'ai complètement explosé, ouais. Parce que finalement il y a eu un gros delta entre ce que je valais en Chine à 12-13 degrés pendant 3 semaines, est-ce que je valais le jour J, alors que j'étais prêt, un peu affûté, etc. Et donc, bon, en fait, c'est surtout l'idée de savoir comment, par exemple, là, dans ma prépa marathon, est-ce que je fais mes blocs à 4.13, est-ce que je les fais à 4.16, 4.17, en me disant que peut-être qu'à 4.13, le jour J, dans le froid, ça passera et je fais sub 3 heures, ou est-ce que... en fait, c'est ce que je me dis aussi, est-ce que mon économie de course, surtout pour un marathon, elle doit surtout s'adapter à une allure de 4.13, 4.15, pas de 4.16, 4.17, 4.18 Donc, même 4-20, parce que Yodu, il parlait de 10 à 15 secondes même d'écart. Moi, je ne vois pas faire ma prépa à 4-30.
Non, mais justement, Greg, c'est ce que j'avais demandé à Yodu, c'est est-ce que, on n'est pas souvent d'accord sur cette donnée-là, Johan, mais est-ce que pour Greg, il faut se baser avant tout sur la fréquence cardiaque et les zones de fréquence cardiaque pour les efforts marathon, semi et 10 km.
Ça, tu ne fais pas du tout.
Si, je le fais. Je le fais, mais c'est peu significatif dans le sens où des fois, il y a des deltas de chaleur qui changent. Ouais. Mais en vrai, si, parce que j'ai couru un marathon au mois de novembre dernier, et puis dans ma prépa, j'ai senti en fait que ma fréquence cardiaque s'est lissée à l'allure marathon prévue. Et là, il se passe un peu la même chose, si tu veux. C'est-à-dire que là, le 4-15, plus ça va, plus ma fréquence cardiaque se lisse et je bosse un peu dessus. Après, j'ai tendance quand même plus à bosser sur l'allure parce que c'est ce qui me rassure.
Ouais.
Oui.
Même si je regarde toujours le cardio et j'ai toujours un peu l'œil sur le cardio, forcément. Mais je me dis qu'ici, et en fait, dû au fait aussi que quand j'entraîne des athlètes ici, des Viettes, eux, leur fréquence cardiaque, elle répond tellement différemment ici avec la chaleur.
Ah oui, c'est sûr, c'est impressionnant.
Voilà, je me dis que c'est peu significatif, même d'un athlète à l'autre, mais en fait, ils ont la... Ouais, c'est compliqué de... Peu de gens, en tout cas, ici, courent à la fréquence cardiaque parce que la chaleur, vraiment, elle dérègle le paramètre.
Il y a forcément une dérive, à un moment donné.
Ouais.
Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre plus de régularité dans les tests VMA, par exemple, Johan, pour Grégoire ? En début de prépa, savoir où tu en es, un peu ta carte d'identité, ce qu'on dit régulièrement. Mais
ouais.
Parce que, oui, les conditions météo changent, mais il y a quand même deux facteurs qui sont toujours présents, c'est la chaleur et l'humidité.
Et l'humidité,
donc,
ouais.
Toute sa prépa, qu'il fasse plus ou moins chaud, il aura ces deux facteurs à affronter pendant 3 mois de préparation, par exemple, Johan.
Ouais, ça c'est sûr que ça peut être intéressant, la vraie difficulté c'est cette dérive cardiaque qui arrive plus ou moins rapidement dans les sorties et il faut adapter et ajuster l'entraînement. Tout à l'heure on parlait de s'entraîner sur tapis dans des versions un petit peu plus fraîches. Effectivement, je pense que ça c'est quand même quelque chose qu'il faut faire, pas régulièrement, mais tu peux faire des EF justement pour récupérer et faire des trucs un peu dans la facilité, parce que c'est sûr que si tu fais 6 entraînements semaine et que les 6 entraînements c'est un combat contre la chaleur et contre toi-même et contre là tu vas créer une espèce de fatigue sur le long terme qui va vraiment te fatiguer pour une prépa marathon, c'est quand même 10 à 12 semaines. Là je sais pas combien de temps il reste avant le 7 juin, mais là il reste 7 semaines, donc voilà, tu es en début de prépa, donc il reste quand même du temps, donc faut pas non plus que ça soit tout le temps une lutte acharnée pour essayer de maintenir les allures et maintenir une performance. Donc aller sur tapis comme ça de temps en temps c'est très bien, et effectivement comme le dit Benoît, après pourquoi pas faire des tests assez régulièrement pour voir où t'en es et pour pas faire d'erreur. Mais pour moi, je pense que t'as quand même un vrai atout dans ton truc, même si effectivement ça rassure pas parce que les allures sont peut-être pas rassurantes, mais c'est de se dire quand même que quand tu vas arriver au marathon de Caen,
t'auras pas une goutte de sueur sur le front.
Ah ouais, tout va te paraître beaucoup plus facile. Ta sudation sera beaucoup plus efficace parce que tu vas refroidir beaucoup mieux, même s'il fait un petit peu chaud ce jour-là. Ta FC, là pour le coup, elle sera stable et égale à tes allures et il y aura pas de dérive comme tu peux le noter. Sur un effort aussi long que le marathon, tu auras forcément une meilleure tolérance à l'effort. Et pour moi, je pense que c'est quand même, dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup plus facile que dans l'autre sens. Mais effectivement, il faut accepter de baisser ses allures et de tout faire à des allures moindres et de checker le cardio assez régulièrement.
Ok. Donc toi, tu me dirais, sur mes blocs d'allure, par exemple, mes blocs que je ferai à allure marathon, là, je regarde plutôt comment se comporte mon cardio plutôt que de
maintenir à tout prix l'allure. Ça, c'est vraiment les conditions du jour, les conditions que tu as passées dans les jours d'avant et tout sont tellement fluctuantes que ça va forcément avoir un impact. Donc concentre-toi sur le cardio et dès que tu vois qu'il y a des dérives, c'est que t'es, par rapport à ce que tu peux mettre, c'est que il faut pas pousser plus que de raison, quoi.
Ça, mentalement, c'est très dur. Hein. Dire que je dois courir à 4,20, 4,25 parce que mon cardio dérive pas, mais je me dis que ça passera jamais le jour J si je dois.
Si tu forces et que tu veux absolument maintenir ses allures, c'est là où tu peux aller dans le mur, surtout sur des prépas marathons qui sont longues et qui sont quand même usantes, quoi.
Non, mais ce qui est dur, c'est l'aboutissement. En revanche, c'est on est le 7 juin, on est au marathon de Caen. Comment il définit sa bonne allure marathon, Johan?
Là, c'est son objectif de moins de 3 heures, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Là, c'est pareil, les stages en altitude, c'est pareil, tu vois, mais je suis en altitude 4 mois dans l'année. Et quand je suis au Kenya, je fais mes sorties longues à 3,15 et je me dis comment est-ce que je vais pouvoir tenir 3,05 à Valence ou à Séville dans quelques semaines, tu vois. Et pourtant, quand tu descends et que tu arrives dans des conditions totalement différentes, le corps, il a une faculté d'adaptation à dès que c'est beaucoup plus facile, tu as l'impression de voler. Donc moi, je garde confiance au fait que cet entraînement dans la chaleur va t'aider à améliorer tes performances. Hein. On le sait, tu augmentes ton volume de plasma, tu transpires mieux, ta fréquence cardiaque, comme je le disais, elle est beaucoup plus stable. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile pour être performant. Et après, c'est juste que dans la prépa, il faut se dire, c'est dur. Et en plus, je suis quand même loin de mes standards et de mes allures. Mais je te jure que quand après, tu te retrouves dans des conditions classiques, le corps a cette faculté à nous surprendre, mais c'est l'entraînement d'altitude mais version thermique, grosso modo.
La question, c'est en fait, c'est hyper documenté sur l'entraînement d'altitude, hyper documenté depuis longtemps, beaucoup moins sur l'entraînement en chaleur.
Exactement.
Et du coup, c'est ce que je me demandais, c'est ce que tu viens justement de me dire là, c'est que potentiellement c'est la même chose dans des proportions différentes, mais il y a des similarités.
Franchement, sur les 12 derniers mois, le nombre de cyclistes que j'ai vus habillés de la tête aux pieds pour suer sur des home trainers dans des thermorooms et parce que dans les données physio, j'ai l'impression que ce qu'ils sont en train de se rendre compte, c'est que s'entraîner dans ces conditions-là, ça peut améliorer la performance, mais comme je te le disais, c'est à condition que ça soit bien fait. Pour le piège, c'est de faire des séances plutôt de réduire les allures, faire en fractionnant comme tu fais, plutôt que faire une fois 12, tu fais deux fois 6 km pour pas créer non plus de fatigue. Et puis voilà, de pas tout faire dans la chaleur parce que et pas essayer de maintenir tes allures, Là, pour moi, c'est le piège à éviter. Et après, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut privilégier les séances de qualité plutôt que des séances, beaucoup de séances en EF ou en marathon ?
Mais c'est une bonne réflexion d'ailleurs. Est-ce que, c'est difficile parce qu'il est en pleine ville, mais est-ce que l'entraînement croisé, c'est pas une solution pour les EF, par exemple, Johan aussi ? Tu vois ? Est-ce qu'il vaut pas mieux faire une séance de vélo comme ça entre deux séances de qualité plutôt que d'aller s'envoyer un footing à 35 degrés ? Je sais pas, hein, mais.
C'est comme tout. Après, je connais pas trop son profil. Je sais pas, parce que le problème du marathon, c'est que musculairement, il faut créer de la contrainte musculaire. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a suffisamment couru dans sa vie pour être suffisamment armé au fait d'aller sur des.
Après,
sports,
c'est un préparateur physique, hein, donc voilà. Tu dois être gainé, ouais. Etc. C'est t'inquiète ça. Pas, hein, Greg. On imagine que tu fais le boulot.
Je sais pas si vous voulez un calibre auquel je peux m'apparenter. Je pense que j'ai le physique d'Antomounier un peu qui est passé dans le.
Ok. Ah oui, le vrai footeux.
Ah oui, d'accord.
Des gros appuis au sol et tanké,
okay.
Quoi.
Ok, on se met pas torse nu à côté de toi. Quoi.
C'est ça. Voilà.
Ok. D'accord, très bien.
Okay. Non, j'ai pas un physique de coureur, j'ai plus un physique de. Ouais, plus un physique de
Délié droit, quoi.
Exactement, ouais, c'est ça.
Ok,
la grosse mais cuisse, des gros et des pecs.
Ouais, et effectivement, c'est vrai que par rapport à ça, tu as cet avantage-là, c'est de faire suffisamment de renfort et d'être en capacité d'encaisser les contraintes musculaires du marathon, parce que effectivement c'est la vraie problématique du marathonien, c'est ça aussi, c'est que on peut décharger des mecs sur le vélo, mais il faut quand même à un moment donné aussi faire de la borne, parce que sinon musculairement au 30-35e tu peux être en difficulté. T'as déjà couru des semis ou pas du tout?
Non, j'ai quand je me suis mis à courir, c'était pour préparer un semi que j'ai loupé. En fait, je l'ai bien préparé et je me suis arrêté au bout de 10 bornes parce que j'ai fait un peu n'importe quoi niveau alimentation le jour même, la veille, au petit déjeuner. Le départ était à 2h30 du matin. J'ai pris mon petit déjeuner. Bref, j'ai complètement explosé au niveau de l'alimentation. Donc non, après, j'en fais un là. En prépa 3 semaines avant le marathon, et j'ai fait par contre un marathon l'année dernière au mois de novembre.
Ok. Et le marathon, c'était où?
C'était à Halong, dans la baie d'Halong. C'était un marathon dans le nord du Vietnam. Il faisait un peu moins chaud. Je pense qu'il devait faire 22-23 au départ. Ouais. 28 à l'arrivée. Départ à 3h du mat aussi.
Et t'as pas crampé ou quoi que ce soit?
Du tout. Vraiment, musculairement, je suis franchement, j'ai même, limite pas eu de courbature le lendemain.
Okay.
Enfin, musculairement, très très bien. J'ai explosé au niveau gastrique.
La difficulté de ces grosses carcasses, enfin je m'entends, hein, mais de ces gros moteurs, de ces gros 4x4 là, c'est que ça consomme énormément d'énergie.
Ah, oui, bien sûr. Et vu le prix de l'essence aujourd'hui.
Et au prix de l'essence, c'est ça, c'est pour ça que sur marathon, pour vous, l'alimentation, l'hydratation est super importante pour envoyer un peu de fuel, et c'est pour ça que les bornes sont quand même importantes, même si Benoît, tu avais raison sur le vélo, ça peut, c'est quelque chose qui peut s'entendre pour dans des périodes, peut-être dans des prépas marathon, de temps en temps effectivement aller faire du rameur ou du vélo ou de la natation, ça peut être une solution pour remplacer un footing de F, mais malgré tout je pense qu'il leur faut quand même courir à ces mecs là parce que c'est des gros consommateurs et qu'il faut qu'ils soient suffisamment prêts pour le marathon.
À quoi ça ressemble le Vietnam au niveau de la course à pied? Est-ce que les Vietnamiens sont passionnés de course à pied? Est-ce qu'il y a des coureurs dans tous les sens? Ou est-ce que c'est encore un sport mineur au Vietnam?
Est-ce qu'on peut trouver des dossards, quoi?
Ouais.
Énormément de coureurs.
Ouais.
Je pense qu'il y a le même
engouement.
Même engouement qu'il y a dans en Europe ici. Il y a énormément de coureurs. Le niveau est bien moins. Enfin, en gros, la densité des coureurs est quand même moins élevée.
Ouais.
Il y a de bons coureurs. Ça court je pense que le record national au marathon, ça doit être 2:18 ou 2:19, je crois.
D'accord.
Là, le meilleur athlète actuel qui gagne un peu tout, il court en 2:20, mais bon, c'est au Vietnam, donc bon, il fait chaud, il faut toujours compter sur ça. Après, les dossards, c'est un peu comme en Europe, il faut quand même s'y prendre en avance. Y a beaucoup
mais
tu as des
courses de masse importantes dans celles que tu disputes là. Par exemple, le marathon d'Along, il y avait combien de participants au départ?
Je regarde, je pense qu'il doit y avoir entre. Il y avait marathon semi 10 000, marathon semi et 10K. Je pense qu'au total, il doit y avoir bien 20 000 ou 30 000 participants, je dirais.
Ok.
Il y a des grosses courses. Hein, y a des grosses courses. Non, ça court.
Ça y est, la course à pied perce aussi. Beaucoup.
Après, la densité est moindre.
Oui.
Le 10 km que je fais ici, c'est un 10 km international. Je fais 38-25. Sur le 10 bornes, on doit être, je sais pas, peut-être 5000 au départ. Je fais 9e, je crois. Donc,
d'accord.
En 38. Donc, bon, ça veut dire que la densité est moins élevée quand même. Quoi.
Et il y a une autre problématique. Après, je te laisserai poser peut-être tes dernières questions, Grégoire. Mais comment gérer la différence, au-delà de l'adaptation, Johan, d'alimentation pour Grégoire le jour J au marathon de Caen? Parce qu'il sera habitué à boire beaucoup d'eau, des électrolytes, etc.
Bonne question.
Comment il adapte avec les conditions météo qui sont complètement différentes le jour J? Est-ce qu'il boit moins? Est-ce qu'il conserve ses routines? Tout ça.
Non, moi je conserverai quand même les routines de ce que tu as l'habitude de faire. Alors, il y a boire et boire, et c'est sûr qu'il ne faut pas, quand tu bois trop, effectivement, ça peut être un petit peu délicat, mais moi non, je resterai sur ce qu'il a l'habitude de faire, que ça soit surtout sur l'alimentation. On le voit bien, sur un marathon, malgré tout, avec l'effort et la vitesse à ces allures-là, grosso modo, tu ne manges pas de trop et tu ne bois pas de trop. Donc, non, je resterai sur ses habitudes. Après, effectivement, il sera dans un environnement où il n'aura pas soif. C'est-à-dire que, effectivement, là-bas, vu comme il transpire, à mon avis, il doit avoir cette sensation de soif tout le temps. Là, ça ne sera pas forcément le cas, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra pas, qu'il faut pas boire. C'est presque 500 millilitres par heure de course. Donc, ça veut dire presque 1,5 litre pour lui. Tu vois, entre 1,2 litre et 1,5 litre, et c'est quand même pas facile de boire tout ça sur un marathon. Donc, moi, je lui conseille quand même de rester sur sa routine qu'il a, et c'est très bien, justement, d'être plutôt dans ce sens-là, ouais.
Grégoire, est-ce que tu avais d'autres questions pour le docteur Yodu?
Bon, c'était juste un peu au sujet de l'auto-coaching et de la manière de se coacher en tant que préparateur physique, des limites que ça a, surtout en termes de coaching. Moi, j'aimerais bien, ça fait pas très longtemps que je cours, et j'aimerais bien aller chercher des bons chronos dans le futur. Est-ce que déjà le fait de courir en chaleur, c'est un frein au bon chrono? Et surtout, le fait de s'auto-coacher, quelles en seraient les limites de se coacher tout seul? Est-ce que, par exemple, là, il y a beaucoup de choses que m'ont dit Johan, que moi, en tant que coach, j'aurais pas nécessairement pensé, ou alors j'aurais pas creusé autant sur ces aspects-là, et c'est intéressant. Et je pense que ça fait, par exemple, partie des limites de l'auto-coaching. Dans quelle mesure, jusqu'à quel niveau tu peux t'auto-coacher? Dans le milieu professionnel, je sais que personne se coach. C'est un sujet qui est assez récurrent dans le milieu de la préparation physique, des coachs, des entraîneurs, etc.
Bah oui.
Est-ce qu'il faut se coacher? Est-ce qu'il ne faut pas se coacher? En général, on dit qu'un coach ne se coache pas toujours très bien, mais il y en a qui arrivent très bien à le faire. C'est un sujet qui est intéressant.
J'aurais le sujet du cordonnier mal chaussé, quoi.
C'est exactement ça.
Non, mais ouais. Bah, s'auto-coacher, grosso modo, c'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne idée. Oui et non, mais si tu as une expérience solide, tu vois, plusieurs années d'entraînement, que tu connais vraiment les bases de la charge d'entraînement, des récup, des intensités, que tu sais aussi écouter les signaux de ton corps, surtout toi, c'est hyper important, tu vois, savoir si tu es dans un état de fatigue qui est lié à l'entraînement, ou est-ce que c'est la vie quotidienne, le fait de s'entraîner dans ces conditions difficiles qui font cette dérive cardiaque. Est-ce que c'est uniquement le fait de la chaleur, ou c'est aussi un signe de grosse fatigue? Donc c'est le piège de s'auto-entraîner, c'est de souvent, quand t'es en forme, bah t'en fais trop. C'est la base. Le coach, généralement, quand il voit que l'athlète est en forme, il va avoir tendance à baisser un petit peu les curseurs, et alors que l'athlète qui s'auto-coach, quand il va être en forme, il va vouloir en faire trop. Et à l'inverse, toujours pareil, quand là t'es fatigué, l'athlète qui s'auto-coach, il va culpabiliser et il va forcer, parce qu'il va se dire « je suis pas en forme », alors que là, le coach qui a un regard extérieur, s'il voit l'athlète qui est fatigué, peut-être qu'il va lui dire de faire une petite coupure, de calmer quelques points, il va mettre des séances EDF, alors que quand tu t'auto-coach, tu veux te rassurer et tu vas avoir tendance un petit peu à forcer. Donc ça c'est difficile et c'est pareil dans la gestion de l'intensité. Tu vois le problème que quand tu t'auto-coaches, quand tu vas aller trop vite, bah tu vas pas te dire ouais j'ai été con, j'aurais jamais dû terminer les trois derniers 400 à cette allure, ça sert à rien, tu vois. Alors qu'un coach peut te dire voilà là t'as fait une erreur, à quoi ça sert de faire ta sortie longue à cette allure, à part créer de la fatigue, voilà. Donc ça c'est ça, tu peux avoir un manque de recul par rapport à ça. Et je pense que effectivement pour tes chronos qui sont quand même des chronos plus que bons, hein, moins de 3 heures au marathon, je sais plus quel est
c'est
le
moins
pourcentage.
De 3%, moins de 3%.
Combien ?
Moins de 3% des.
Voilà, il y a moins de 3% des marathoniens qui font moins de 3 heures. Donc on est déjà sur des chronos de très bon niveau. Et donc effectivement, dans ton cas, peut-être que faire appel à un entraîneur qui connaît ton contexte et qui a l'habitude justement de un local, tu vois, qui connaît vraiment les conditions dans lesquelles tu vis, dans lesquelles tu t'entraînes. Exactement. Pour justement bien connaître tout ça, pour gérer les allures et tout, ça peut être une solution à un moment donné pour passer sous les 3 heures si tu n'y arrives pas, ou pour aller peut-être chercher un chrono à 2,50 ou 2,55 si jamais tu passes sous les 3 heures.
Et surtout, je pense que le piège à éviter pour toi, ça dépend vraiment des profils, hein, mais c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'à aucun moment, l'intelligence artificielle ne prendra en compte tes difficultés quotidiennes de chaleur, d'humidité, etc.
Ah là, il faut un coach perso, il ne faut pas ni d'algorithme, ni de...
Ah ouais, là, je pense que c'est un risque à éviter, ouais. C'est un risque à éviter.
Non, j'entraîne un peu d'athlétisme, etc. Même si, comme je disais, mon vrai métier, c'est la prépa physique. Mais je pense que le vrai piège, c'est qu'en prépa physique, je travaille avec des vrais athlètes professionnels qui, eux, sont des pros, qui vivent comme des pros, pour lesquels c'est le métier. Donc, du coup, moi, le piège, c'est, par exemple, c'est ce qui s'est un peu passé dans ma prépa de coureur. Là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à courir un peu sérieusement, j'ai directement appliqué la planification que j'aurais fait à un athlète déjà en shape, alors que avec le recul j'aurais plutôt dû m'appliquer l'entraînement d'un débutant entre guillemets. Donc c'est le genre d'erreur que je fais et qu'il faut éviter justement, comme disait Johan, c'est vraiment le fait de s'en mettre trop. Moi je pense que c'est ma limite elle est vraiment là, je m'en mets trop, que ce soit à la salle de sport, que ce soit
des fois du prépa physique là.
Ouais. Je m'en mets beaucoup trop, et je me dis que même si j'essaie de regarder un miroir, je me dis si je devais préparer un athlète qui était moi aujourd'hui, je lui en mettrais pas autant. Ouais. Donc c'est souvent ce qui, mais pourtant ça avance, ça marche, ça progresse, et j'ai la chance de savoir de par mon expérience comment faire progresser mon corps, comment faire progresser un athlète, comment planifier une séance, comment planifier une programmation, etc. Donc c'est un peu le risque et le piège, et voilà, je pense que ça aurait son intérêt de oui, pourquoi pas avoir
de pour progresser.
Ouais, c'est sûr.
C'est sûr que le coach aura un... La vraie difficulté, c'est de manquer aussi de recul sur ce que tu fais, tu vois, d'avoir tendance à changer un peu trop souvent les plans aussi, parce que tu vois, tu sais pas où tu vas, tu avances un peu à tâtons sans un plan vraiment structuré, et la difficulté, c'est d'être lucide avec soi-même, tu vois, des fois de se dire bon bah là, est-ce que c'est bien, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je prépare, c'est pas toujours facile, hein. C'est pour ça que s'auto-coacher, franchement, il y a très peu d'athlètes, moi je connais très peu d'athlètes qui sont eux-mêmes leur coach, hein. C'est très compliqué, hein.
Ça c'est sûr.
Ouais. Toi par exemple, Yodu, quelle serait ta limite, toi qui es aussi coach, quelle serait ta limite à t'auto-coacher, par exemple? Ce serait la limite numéro 1, ce serait tu t'écouterais pas, ou c'est...
Ouais, c'est... Non, ma limite, je pense que c'est aussi, comme toi, tout à l'heure, tu parlais d'allure, d'avoir peur de courir à 4,15 du kill parce que tu te dis que... Enfin, ou à 4,30 du kill parce que en compète, tu te vois pas courir à 4,15. Bah, ça serait d'aller sur des trucs là où je suis fort. Tu vois, de toujours faire des trucs où je suis bon pour me rassurer, et de pas travailler tes faiblesses. Si je m'écoutais, bah je ferais peut-être pas, enfin je ferais moins de pas de gamme, pas de renfo, je ferais que du seuil et des sorties longues, les trucs que tu maîtrises et où t'es en confort, tu vois. Et effectivement, peut-être que
t'es quand même sérieux, mais
non, mais même, tu vois, c'est marrant. Même sans caricaturer, je pense que ça serait le cas de manière involontaire, quoi. C'est-à-dire que tu le ferais à long terme.
C'est le principe du truc.
Ouais, c'est ça. C'est à long terme, sans le vouloir, si tu t'auto-coaches,
tu tirais
vers tout ce que t'aimes, etc.
Je suis d'accord avec ça.
Et la tendance se confirmerait sur 6 mois, 1 an. Tu regardes après ton année d'entraînement et tu dis j'ai pas travaillé ce secteur, cette filière, ce truc. Ah bah oui, parce que forcément.
Ouais, parce que t'aimes pas le faire.
Ça m'attire moins.
Ça t'attire moins, t'es moins bon. Et du coup, comme t'es moins bon, t'as moins envie de le faire parce que t'es. En difficulté.
Ouais. Exactement.
Ouais.
C'est pour ça qu'un coach.
Et ça c'est une vraie problématique que le coach peut sur lequel ton entraîneur doit t'amener. Ouais.
Ok. Bon c'est super. Bon.
Greg, merci beaucoup. C'était un témoignage passionnant. Maintenant, on veut des nouvelles pour le marathon
et
de
bon
Caen.
Courage,
ok. Petite question. Si un auditeur qui est de passage au Vietnam, est-ce qu'on peut te contacter si on est dans ta ville d'ailleurs?
Avec un énorme plaisir.
On va essayer de mettre ça en place. Alors.
Avec plaisir. S'il y a qui que ce soit au Vietnam,
un Français pour un run communautaire au Vietnam, ça peut être très sympa. Exactement.
Avec plaisir.
Merci à toi. En tout cas, c'était hyper intéressant. Bon courage pour le marathon de Caen le 7 juin.
Super.
Et si, comme Greg, vous voulez profiter des conseils du maître Yodu, je vous le rappelle, l'adresse mail podcast@rmcrunning.com, du maître Yodu et d'une autre surprise, parce qu'on va développer, Johan, les cabinets également trail pour les problématiques autour des prépa trail. Le Johan sera toujours là, évidemment, mais notre ami Seb Cornette, fondateur d'École de Trail, va nous rejoindre pour ce beau projet des cabinets. Vous êtes en prépa trail, quelle que soit la distance et l'objectif. Vous venez.
C'est une maison médicale le truc.
Voilà, exactement.
Après, on rajoute un kiné, deux coachs, trois
médecins. Deux dentistes. Et puis, voilà. Alice, la nutritionniste, et voilà.
Exact.
Tout ce qu'il faut. Ah bah on va récupérer Greg en prépa physique, et puis là, on sera au top. Du coup, on sera complet, quoi. Voilà, magnifique. Mais si vous avez des problématiques trail, n'hésitez pas, podcast@rmcrunning.com. Merci Greg, merci à toi Yodu, et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.